L'histoire des féministes, c'est tout de suite sur Fréquence Mistral, grâce à Jacqueline Engraaf, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de Fréquence Mistral. Eh bien, nous sommes toujours dans notre deuxième partie, les féministes de la première vague, celles qui ont lutté pour les droits civiques. L'avènement du Second Empire avait contraint nombre de militants et militantes républicains, républicaines à l'exil, dont Jeanne de Rouen, qui défendait le droit des femmes à l'égalité civile et politique, et Pauline Roland, morte en 1852 sur la route du retour d'exil, comme nous l'avons vu le mois dernier. Jusqu'en 1860, la France vécut donc sous un empire autoritaire, une période de servitude politique, mais aussi d'essor économique et de guerre victorieuse. Mais à partir de 1860, le régime s'assouplit, favorisant la renaissance de l'opposition républicaine avec la liberté de la presse et la liberté de réunion retrouvée. Et cela favorise aussi l'expression de revendications féministes. Il s'agit d'étendre aux femmes l'égalité et la liberté qui sont les fondements de la République. Soutenue par quelques hommes influents comme Léon Richer, Richer R-I-C-H-E-R, 1824-1911, ou Victor Hugo, en personne, les militantes féministes, peu nombreuses mais actives, connaissent les combats de leurs devancières. Elles s'expriment par la plume, articles de journaux, pétitions, essais, romans qui prolifèrent, et par la parole publique, conférences, interventions dans les meetings, les congrès, qui se multiplient. André Léo, L-E accent aigu O, pseudonyme masculin de Léodile Béra Champsex, 1824-1900, impose le terme « oratrice », féminisation du terme « orateur » dans ses articles de l'Opinion nationale. Ce terme convient particulièrement bien à Maria Deraisme, D-E-R-A-I-S-M-E, 1828-1894, sollicitée par ce journal pour animer, avec succès, à partir de 1866, un cycle de conférences où elle aborde la question des femmes. Réformiste plutôt que révolutionnaire, elle considère que l'inégalité est une invention humaine, c'est-à-dire pas naturelle, et qu'un régime égalitaire, c'est-à-dire républicain, doit agir sur la législation, les mœurs et les préjugés pour combattre l'oppression des femmes. D'autres militantes dans les réunions publiques, telles André Léo précité et 18 autres, rendent public un manifeste qui dénonce la double oppression des travailleuses comme ouvrières et comme femmes, à cette époque d'essor industriel et de victoire de la bourgeoisie, où le pouvoir patronal est sans limite, la condition ouvrière très dure. Les associations ouvrières étaient proscrites, sauf les sociétés de secours mutuels. La journée de travail était officiellement de 10 à 11 heures, mais pas appliquée. Les salaires insuffisants, le travail excessif, les accidents et maladies sans recours. Se forme alors un mouvement ouvrier contre cette condition de vie professionnelle, qui obtient le droit de grève en 1864. Les féministes réclament aussi des droits. Mais elles se bornèrent à réclamer les droits civils, le divorce, l'instruction égale, l'égalité des salaires. Mais en même temps, elles luttent opportunément contre la théorie des deux sphères. Les deux sphères, ce sont, un, la sphère publique attribuée aux hommes, et la sphère privée, la maison, le foyer domestique, attribuée aux femmes. Cette distinction étant faite par la société à cause de ce qui était considéré comme la nature profonde des femmes. Les Françaises se rangèrent derrière Maria Deraisme, intellectuelle, théoricienne du féminisme, qui, entre 1868 et 1871, étudie le sort de la femme. Voici des extraits de ce qu'elle dit dans un article du journal « Le droit des femmes », daté du 10 avril 1869, un article intitulé « Ce que veulent les femmes » et que l'on pourrait reprendre presque mot pour mot aujourd'hui. Qu'est-ce que veulent les femmes ? Telle est la question faite par plusieurs journaux à propos des discussions qui ont lieu dans des réunions publiques, autorisées ou pas, au sujet de l'émancipation féminine. Qu'est-ce que veulent les femmes ? Le voici, rien de plus simple. Elles veulent tout ce que tous les opprimés, les assujettis, ont voulu depuis le commencement des sociétés, leur juste part de droits et de libertés. Le sexe masculin s'étant arbitrairement déclaré noble, s'est constitué en aristocratie, et comme toutes les aristocraties, il s'est alloué des privilèges. Il a confisqué la liberté à son profit. Ce que les femmes veulent, c'est que les hommes cessent de baser leur grandeur sur l'amoindrissement systématique des femmes. Ce que les femmes veulent, c'est de ne point être élevées, enseignées, façonnées, suivant un type de convention, un type conçu dans les cervelles masculines des poètes, des romanciers, des artistes, et par conséquent, dépourvues de réalité. Ce que les femmes veulent, enfin, c'est qu'on renonce à cette distinction arbitraire, fictive, des facultés humaines, affirmant que l'homme représente la raison, la femme le sentiment. Donc, ce que les femmes veulent, c'est que le développement de leur raison pour l'accomplissement de leurs devoirs et la possession légitime de leurs droits, et d'ailleurs, en quoi le droit des femmes peut-il gêner le droit des hommes ? L'un n'annule pas l'autre, que je sache. C'est toujours Maria de Rheims qui s'exprime. Le droit de tous ne peut contrarier que des privilèges. Et abolir les privilèges, c'est servir la justice, c'est moraliser et par conséquent progresser. En ce 19e siècle, siècle du romantisme littéraire, de l'essor industriel et du mouvement ouvrier, le Second Empire de Napoléon III fut une période de guerre continuelle. Du 16 juillet 1870 au 28 janvier 1871, c'est la guerre franco-allemande sur le sol français, un désastre pour la France, une croisade germanique pour l'Allemagne qui achève là son unité. Après la capitulation de Sedan, le régime impérial s'effondre. Le 4 septembre 1870, l'avocat Gambetta fait proclamer la déchéance de Napoléon III et la République, troisième du nom, à l'Hôtel de Ville de Paris. Un gouvernement provisoire est constitué. Alors, la guerre a suspendu la contestation féministe au profit d'activités de soins aux blessés ou aux indigents par des femmes ouvrières, artisanes, institutrices ou ménagères. Paris est envahi par les troupes ennemies. Élue en février 1871, l'Assemblée nationale porte Adolphe Thiers, un bourgeois conservateur, à la tête de l'exécutif. La grande misère du peuple provoque la révolte civile qui éclata alors, connue sous le nom de la Commune de Paris. Un sursaut révolutionnaire qui tente en peu de temps, en 3 mois, d'instaurer une république démocratique et sociale. Les femmes de toutes conditions populaires sont nombreuses dans les groupes révolutionnaires. La communeuse ou la communarde la plus connue est l'institutrice Louise Michel, dont nous avons fait le portrait radiophonique en tant que femme exceptionnelle de notre matrimoine. La sérieuse question du travail des femmes est débattue dans les clubs. On y défend la revalorisation des métiers féminins, déjà, comme on le fait encore aujourd'hui. Le 21 mai 1871, la commune décrète d'ailleurs l'égalité salariale entre instituteurs et institutrices. Mais, comme pour discréditer leur action souvent violente, les communeuses sont perçues comme des malades mentales dans les milieux médicaux influents et sont souvent internées en asile psychiatrique ou déportées. Car la commune est écrasée dans le sang par les troupes du gouvernement Thiers venues de Versailles où le gouvernement s'était établi en fuyant Paris. Les massacres de rue durèrent une semaine, du 21 au 28 mai 1871. On l'appelle la semaine sanglante. Bilan, 20 000 fusillés, puis une répression sauvage jusqu'en 1875. Arrêtée, Louise Michel, surnommée la Vierge Rouge, est déportée en 1871 au bagne de la Nouvelle-Calédonie avec une autre révoltée, entre autres Nathalie Lemel, qui partagea sa cabane. Elle y restera pendant 8 ans. Elle rentre en France en 1880 suite à une amnistie. L'action de Louise Michel s'inscrit totalement dans l'amélioration de la condition féminine, car pour elle, la question des femmes est indissociable de celle de l'humanité tout entière. Elle critique la domination masculine qu'elle refuse absolument, sans concession, tout comme Pauline Roland et Jeanne de Rouen avant elle, puis Hubertine Auclert et Madeleine Pelletier après. Pendant ce temps, en 1872, Maria de Rheims soutient une vive controverse contre Alexandre Dumas fils. Alexandre Dumas fils, l'auteur de la célèbre Dame aux camélias. mais aussi ardent défenseur de la suprématie masculine, qui conseillait au mari trompé par une épouse infidèle, « Tue-la », dans son ouvrage au titre obscur « L'homme-femme » de 1872, qui remporte un immense succès malgré sa médiocrité littéraire, selon Yannick Ripa dans « Histoire féminine de la France ». Voici un extrait. « Si la loi se déclare impuissante, déclare-toi personnellement le juge et l'exécuteur de cette créature. Ce n'est pas la femme, ce n'est même pas une femme. Elle n'est pas de conception divine, elle est purement animale. C'est la guenon du pays de Nod, c'est la femelle de Caïn, tue-la. » Déjà en 1863, il avait écrit « Il faut maintenir la femme en esclavage. La femme est un être circonscrit, passif, instrumentaire, disponible, en expectative perpétuelle. C'est la seule œuvre inachevée que Dieu ait permis à l'homme de prendre et de finir. C'est un ange de rebut. La nature et la société se sont donc entendues et s'entendent éternellement, quelles que soient les réclamations de la femme, pour que la femme soit sujette de l'homme. Il n'y a plus à y revenir. » Alors la Troisième République, 1870-1940, est pour l'heure la plus longue des républiques françaises, 70 ans, contre 66 pour la cinquième sous laquelle nous vivons aujourd'hui depuis la Constitution de 1958. Qu'en attendent les femmes et que leur apporte la Troisième République ? Maria de Rheim le dit en 1872, « Le droit des femmes paraît intimement lié à la fortune de la République. » Il est, ce droit, certainement une résultante logique et nécessaire au principe de démocratie. L'œuvre de libération de la moitié de l'humanité est, comme la République à sa troisième tentative, elle s'est essayée en 1789, en 1848 et aujourd'hui en 1870. Autrement dit, les femmes attendent beaucoup de la République. Cela commence bien avec un grand banquet organisé le 9 juin 1872 par Léon Richer en faveur du droit des femmes. Mais Léon Richer, prudent, ne voulant pas réveiller le spectre de la guerre civile, centre ce banquet uniquement sur les réformes civiles et n'évoque pas les droits civiques, tels le droit de vote. Au contraire, Victor Hugo, lui, défend dans une lettre adressée à Richer le 8 juin 1872, parce qu'il n'avait pas pu se rendre au banquet, il défend le suffragisme. Il est plus exigeant que Richer en ce qui concerne le droit des femmes. Voici un extrait de cette lettre de notre grand poète du XIXe siècle. Même si c'est de la prose, on reconnaît son style. Je cite. « Il est douloureux de dire, dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi a des euphémismes. Ce que j'appelle esclave, elle l'appelle une mineure. Cette mineure, selon la loi, cette esclave, selon la réalité, c'est la femme. Dans notre législation, telle qu'elle est, la femme ne possède pas, elle n'est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyenne. C'est là un état violent, il faut qu'il cesse. » Et plus loin, il ajoute, écoutons-le en pensant à la situation présente, « Nous, philosophes, nous, contemplateurs de l'idéal social, ne nous lassons pas. Continuons notre œuvre, étudions sur toutes ses faces et avec une volonté croissante ce pathétique problème de la femme dont la solution résoudrait presque la question sociale tout entière. » Mais Richer maintient sa position attentiste et raisonnable, ce qui fait réagir Maria de Rheim elle-même, pourtant proche de lui. Yannick Ripa nous dit que, ironiquement, Maria de Rheim repousse les appels à la patience opposés aux revendications des féministes, déclarant « Il y a plus de 6000 ans que nous attendons ». Ces appels à la patience insupportables, on les entend encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le banquet s'inscrit dans l'histoire comme la première manifestation féministe de la Troisième République. Malgré sa modération, il provoque les réactions négatives des anti-féministes et des masculinistes auxquelles le féminisme et les féministes devront faire face durant des décennies et maintenant encore dans la récente actualité, ce que nous avons affirmé en introduction de ce récit, de l'histoire des féministes, au premier épisode de ce récit. On traite le féminisme comme un danger et les féministes comme des femmes dangereuses. Nous arrivons à la pause musicale et nous allons écouter une chanson de Georges Moustaki sans la nommer.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Alors, je reprends, après cette belle chanson de Georges Moustaki, d'actualité. La déclaration de Victor Hugo sur le scandale de la non-citoyenneté des femmes fut relayée en province par la presse. Et cela incita une jeune bourbonnaise, Hubertine Auclert, A-U-C-L-E-R-T, 1848-1914, à rejoindre la lutte féministe pour les droits civiques. Elle quitte sa province natale pour Paris, où elle retrouve Léon Richer et Maria de Rheims, qui deviennent ses amis. Elle devient aussi la secrétaire de leur journal « L'avenir des femmes ». Pour elle, la priorité absolue est l'acquisition de la pleine citoyenneté. Elle est persuadée que le pouvoir politique donnera aux femmes le droit de confectionner les lois égalitaires entre les sexes, de réformer le code civil. Première suffragiste française, Hubertine Auclert va marquer son époque par ses positions pionnières et ses méthodes radicales. Renversement des urnes électorales, piétinement des suffrages masculins, intervention dans les mariages. Elle s'exprime dans un journal qu'elle a créé, La Citoyenne, sur le modèle de celles que l'on appelle les suffragettes en Angleterre. Les féministes qui se battent pour le droit de voter et sont souvent violemment emprisonnées et malmenées par la police suite à leur action spectaculaire. On pense aux Femmes d'aujourd'hui, par exemple. Hubertine Auclert fait partie de ce courant radical des féministes minoritaires, certes, par rapport aux féministes réformatrices modérées et attentistes. Le courant est radical parce qu'il réclame la satisfaction immédiate de toutes les revendications, et d'abord celle des droits civiques symbolisés par le droit de voter, la fin de la domination masculine et des normes sexuées, jusque dans la façon de se vêtir, c'est-à-dire l'abandon des vêtements encombrants destinés à restreindre la liberté de mouvement des femmes, telles les amples robes longues ou le corset. Hubertine Auclert restera une militante active jusqu'à sa mort en 1914, à 66 ans, sans avoir vu aboutir sa revendication principale. Il y a trois sortes de revendications. Le droit au travail, revalorisation des métiers féminins, toujours d'actualité, fin des salaires de misère entraînant la prostitution, les droits civiques, mixité hommes-femmes dans les assemblées législatives représentatives, droit de vote, et les droits civils, indépendance dans le mariage, le divorce, la valorisation du travail ménager, l'instruction des filles égale à celle des garçons, la recherche de la paternité pour les mères abandonnées. Malgré leurs dissensions, toutes les féministes sont dominées par la passion de la République et toutes mettront en 1909 le suffragisme à leur programme. 1878 est une date très importante. Elle marque l'apogée de la première vague du féminisme. C'est la tenue du premier congrès international sur les droits des femmes, du 25 juillet au 9 août 1878, dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris, un congrès qui sera suivi de beaucoup d'autres. C'est un grand succès. 600 participantes et participants de 11 nationalités y débattent de la cause des femmes à l'initiative toujours de Léon Richer. Il y est question des droits civils, toujours les mêmes déjà cités, mais à la grande déception d'Hubertine Auclert, Richer refuse que l'on débatte des droits civiques et on l'empêche d'en parler. La question ne fut donc pas abordée. Pour Léon Richer, qui pourtant consacra 50 ans de sa vie à défendre les droits des femmes, les femmes n'avaient pas acquis la maturité politique nécessaire pour voter en connaissance de cause, comme si tous les hommes avaient, eux, acquis cette maturité. Écoutons Hubertine Auclert en 1878, parce qu'elle n'a pas pu le dire, elle écrit ceci. « Mesdames, il faut bien nous le dire, l'arme du vote sera pour nous ce qu'elle est pour l'homme, le seul moyen d'obtenir des réformes que nous désirons. Pendant que nous serons exclus de la vie civique, les hommes songeront à leurs intérêts publics plutôt qu'aux nôtres. Aimerions-nous moins que l'homme la liberté ? Nous sommes assujettis aux mêmes lois répressives, aux mêmes contributions que les hommes. Nous devons déléguer des mandataires pour défendre nos intérêts dans la confection des lois et des budgets. Sans cela, on fera des lois contre nous et l'on dépensera le moins possible d'argent pour nous. Dans la seule répartition du budget, un vol considérable est fait à la femme. » Toujours d'actualité. Et plus loin, s'adressant aux élus hommes, voici ce qu'elle dit. « Vous refusez le vote aux femmes sous prétexte qu'elles voteraient pour les prêtres et les jésuites, ce qui n'est pas prouvé. Et vous ne craignez pas de permettre aux jésuites et aux prêtres de voter. Supposez-vous donc que les prêtres et les jésuites ne votent pas pour eux-mêmes ? Républicains, qui vous croyez radicaux, socialistes, qui niez le droit politique de la femme, vous êtes des autocrates. Vous niez la liberté, vous niez l'égalité. » Ce congrès, premier du genre, fondateur, hisse le féminisme au rang d'un mouvement sociopolitique national et international, et ce, en dépit du manque de considération des gouvernants et de l'opinion publique qui l'ignore. L'existence de cette Troisième République fut d'abord précaire. Après l'écrasement de la Commune de Paris, 1871, et la démission de Thiers, 1873, l'Assemblée nationale faillit restaurer la royauté. Ce n'est qu'en 1875 qu'elle vota une constitution républicaine. Les élections législatives de l'année suivante portent à l'Assemblée, appelée désormais la Chambre des députés, une nette majorité républicaine, le vrai moment fondateur de la Troisième République qui durera jusqu'en 1940. À cette époque, une amnistie fut accordée aux condamnés de la Commune, comme on l'a déjà dit, permettant leur retour en France, comme c'est le cas de Louise Michel. En 1878, donc, l'exposition universelle précitée a accueilli 16 millions de visiteurs et visiteuses. Par ce succès, elle atteste de la victoire des Républicains et que la crise due à la guerre est surmontée. Jules Ferry devient ministre de l'Instruction publique dès 1879 et crée, conformément au programme républicain, l'enseignement primaire, gratuit, laïque et obligatoire. Action fondamentale pour l'instruction du peuple tout entier, ce que nous avons vécu pendant tout le XXe siècle au sein de l'école de la République émancipatrice. En ce qui concerne notre propos de ce récit, Camille C, alors S et accent aigu E, 1827-1919, proche de Jules Ferry, créa les lycées pour jeunes filles en 1880, une grande avancée concrète dans la vie des femmes. Les féministes, par leur ténacité, ont obtenu beaucoup de choses en droit civil, mais toujours pas de droit civique pour elles, toujours pas le droit de voter, comme les hommes de toutes conditions pouvaient le faire, riches ou pauvres, instruits ou analphabètes. C'est que, pour les Républicains, les femmes ont un rôle spécifique, comme on l'a déjà dit. Selon Michel Perrault, dans le Dictionnaire critique de la République, édition Flammarion 2007, la République attend beaucoup des femmes et de leur pouvoir sur l'enfant, la famille et plus largement les mœurs. Les citoyennes sont le pilier privé de la République. Leur utilité sociale considérable réside dans l'accomplissement de leurs devoirs familiaux, d'épouse, de mère, de ménagère. La République le reconnaît et y porte attention, tout en les confinant dans ce rôle. C'est même l'argument principal de la proposition de loi de Camille C sur l'enseignement secondaire des jeunes filles. Voici ce qu'il dit. Une jeune fille de 10 à 18 ans mettrait son bonheur à étudier les langues, la littérature, les sciences. Elle jetterait pendant ses années d'études les fondements du bonheur de toute sa vie. Elle entrerait ensuite dans une famille parée de toutes les grâces de l'esprit et prête à remplir ses devoirs de mère, c'est-à-dire d'institutrice. Il est temps, il est plus que temps, de mettre ordre à un état de choses qui est un déni de justice à l'égard des femmes, un préjudice porté à leur mari et un crime commis contre leurs enfants. En conclusion de cet épisode, nous dirons que être femme sous la Troisième République, c'est exister pour le bien-être de la famille exclusivement, tout en restant privée de ses droits civiques. Et nous verrons dans le prochain épisode comment les choses évoluent pendant la première moitié du XXe siècle. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode.